Bonjour, vous écoutez Tsukimi, le podcast pour les amoureux du Japon. Je m'appelle Mathilde Amotte et je suis la fondatrice de la Maison du Mochi. Sur ce podcast, écrit à plusieurs mains avec les membres de l'équipe de la Maison du Mochi, nous partageons notre passion pour le Japon et sa culture, rythmée par la nature et les saisons. Tsukimi est un podcast que nous publions deux fois par mois, où nous suivons sur une année le calendrier traditionnel japonais, en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site lamaisondumochi.fr. Bonne écoute! Si le nom de Jean-Baptiste Meunier ne vous parle pas, celui de Kodawari Ramen fera sans aucun doute tilt, ou peut-être devrais-je dire slurp, dans ce cas précis, du bruit qu'il est de bon aloi de faire au Japon tout en dégustant ce plat à base de bouillon et de fines pâtes glissantes. Kodawari Ramen, c'est une adresse incontournable pour les amateurs de ramen en France. Le ramen est l'un des plats les plus populaires au Japon, et lorsque Jean-Baptiste Meunier les a ramenés de la péninsule, il était encore très peu connu en France. La brillante réussite de Kodawari Ramen auprès des gourmands tient à deux principaux axes, des ramens irréprochables en termes de qualité et de goût, et un décor digne du cinéma qui recrée des ambiances du Japon. Partons donc partager avec Jean-Baptiste Meunier un peu de sa quête du parfait dashi. Bonjour Jean-Baptiste Meunier.
Bonjour Mathilde.
Un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
Ouais, je vous en prie, c'est un plaisir.
Commençons donc, avant de parler de Kodawari Ramen, à parler de vous, Jean-Baptiste Meunier. Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter ?
Alors, Jean-Baptiste Meunier, fondateur de Kodawari, je suis né en 1980 à Paris. Donc j'ai grandi à Paris comme beaucoup d'adolescents et d'enfants, j'ai eu une passion pour le Japon qui était une des caractéristiques de notre génération des années 80. Et voilà où j'en suis, c'est une des conséquences, Kodawari est une des conséquences de cette période en tout cas.
Donc pur parisien.
Oui.
Ok.
Dans un premier temps.
Ok, on va voir la suite après, en effet, qui ne manque pas de péripéties. La question que j'aime toujours poser au début à mes invités est, quand vous étiez petit, que rêviez-vous de faire ?
Alors, quand j'étais petit, je rêvais d'être pilote de chasse. Je rêvais d'être pilote de course automobile.
Ok, donc hyper attiré par la vitesse.
Exactement. Et je rêvais de monter une entreprise sans savoir quoi, mais j'avais ce goût de convaincre et j'avais envie d'entreprendre. Voilà.
Ok. Bon, et ben voilà, on a un peu fait le parcours que vous avez finalement tracé.
Je me souviens de ma directrice de collège, on a toujours ses dictées, ouais. Et enfin ses dictées, ses rédactions. Qu'est-ce que voulez-vous faire plus tard ? J'ai fait de la sixième à la quatrième chaque année. Je développais un argument, parfois un peu mélangé, ouais. Mais tout était déjà assez clair en fait.
Et on vous disait, on vous riait au nez ou on vous prenait en sérieux sur les deux axes de votre carrière ?
En fait, plus on est petit, plus on vous prend, enfin moins on vous, oui, prend au sérieux, et plus vous grandissez, plus on se moque de vous.
Voilà. Ouais, c'est
on
ça,
dit
ouais.
Mais tu n'y arriveras jamais.
Bah clairement. Ouais. Et puis en plus, c'est tellement différent parce que de fait, donc je ris parce que Jean-Baptiste Meunier, c'est ce que j'ai découvert en faisant des recherches sur lui, parce que je le connaissais comme fondateur de Kodawari Ramen, mais a été dans une autre vie pilote de chasse puis pilote de ligne.
Exactement.
Donc ce qui est assez incroyable dans le parcours d'un entrepreneur. Donc là-dessus, j'avais bien envie de vous faire parler avant de se lancer sur le Japon. Comment ça s'est passé cette histoire pilote de chasse? Donc ça, c'est un rêve en effet de petit qui est devenu grand. Et comment est-ce que vous êtes passé de pilote de chasse à entrepreneur dans les ramen?
Eh bien, non, mais posé comme ça paraît pas logique. Mais dans le cadre d'une vie, tout s'imbrique, tout se suit.
Se déroule.
Et ouais. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que les choses peuvent se passer en parallèle. On a tous un métier, tous ceux qui nous écoutent ont un travail, ils ont sûrement une passion, une activité annexe et peut-être des rêves. Et imaginons que ces rêves commencent à grandir.
Ouais.
Et puis que, de façon un peu maligne, on essaie de les alimenter un petit peu et puis tout d'un coup, ça grandit. au point qu'on se dise, eh ben, si j'arrêtais tout pour faire cette passion. Voilà.
Okay.
Donc c'est en fait très logique, sur le papier c'est étrange,
ouais.
Mais tout ça, comme je vous disais, les graines étaient déjà là depuis mon enfance.
Depuis que vous étiez petit, donc vous avez coché la case de l'air, et pour vous peut-être, du coup, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté de cette carrière de pilote?
Alors, j'ai arrêté la carrière de pilote pour faire des ramens.
D'accord.
Parce que tout simplement, je les premières recettes qu'on peut goûter aujourd'hui chez Kodawari à rue Mazarine, je les ai écrites en croisière pour la plupart.
D'accord.
Donc c'était pendant les vols. Donc je rassure tout le monde, hein, je faisais mon boulot correctement. Mais donc, quand il y a des moments de pause en croisière, ça m'arrivait de soit bouquiner des revues de ramen, des D'accord. livres, ou de rédiger des recettes. Bon, et effectivement, mon temps libre, je le passais à aller au Japon.
Ok.
À parcourir le Japon, à continuer à découvrir les ramen, à me former dans des écoles. Et puis, à un moment, on se dit, mais c'est ça ma vie, quoi. Voilà. Il y a eu deux déclics. Il y a eu un. Je me suis retrouvé sur 3 jours à faire un aller-retour à Tokyo pour aller travailler 24 heures dans un restaurant.
3 jours à Tokyo.
Non, mais 3 jours de jours off, en fait.
Ah, d'accord, sans d'accord. Travail.
Donc c'est un week-end de 3 jours.
Mmh.
Et j'ai fait l'aller-retour. Bon, j'avais la chance, je payais pas très cher les billets d'avion.
Oui.
Et je suis allé travailler d'ailleurs chez Kikombo, qui est un restaurant extraordinaire à Tokyo. Et voilà. Donc c'est le premier déclic. Et puis l'autre déclic, tout simplement, enfin sans faire de polémique, mais c'était, vous vous souvenez, il y a eu une grande grève des pilotes d'Air France,
oui.
qui a fait perdre 500 millions d'euros à Air France. Enfin bref, sans rentrer dans le fond, mais je me reconnaissais pas en fait dans tout ça. Je me reconnaissais pas dans cette chienlit, et je me suis dit, mais moi j'avais besoin de rêve, j'avais besoin de gens qui me fassent rêver, des gens qui avaient des choses à m'apprendre, et je me reconnaissais pas dans ce système. Voilà, donc ça m'a... C'est deux déclics. Et pendant cette grève, d'ailleurs, j'étais à Osaka en train de... dans une école de ramen.
Excellent.
Et donc voilà, voilà, c'est ça, c'est deux trucs qui m'ont fait dire que tout mon temps, en fait, était déjà orienté
ouais.
vers cette passion. Et puis l'autre, que ma voix, je me voyais pas vieillir dans la voie dans laquelle j'étais. Passionné d'aviation, pourtant, et dans la compagnie dans laquelle j'étais, c'était des gens extraordinaires, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui, je suis très heureux.
Mais ce qui est vrai, que ce qui est fou, c'est que c'est quand même donc des univers tellement différents que pour une personne, pour la plupart des personnes, disons, on peut imaginer que ça reste un doux rêve parce que c'est tellement loin, que ça paraît. Je sais pas comment vous l'avez annoncé à vos collègues, comment ils ont réagi. Bon, peut-être qu'ils vous voyaient dans les ramens depuis des années aussi, donc ils ont trouvé ça logique.
Ouais, je restais discret, donc quand je bouquinais, mais je faisais ça en vol, je restais discret. J'étais pas en train de dire voilà, je suis en train d'écrire des recettes pour un restaurant.
Okay.
Mais en fait, le rêve, le plus grand rêve, qui me semblait le plus inatteignable, c'était pas tant de faire des ramens. C'était d'être pilote de chasse parce
ouais.
que pour moi, à part aller sur la lune, pilote de chasse, c'était le truc qui venait juste après, enfin il n'y avait pas plus intouchable,
bien sûr.
Et le fait d'avoir réussi,
ouais.
ça m'a libéré entièrement en me disant qu'en fait tout est possible. Je pense que sans avoir été pilote de chasse, Kodawari n'existerait pas.
Okay.
Parce que j'aurais peut-être pas eu l'audace de tout plaquer.
Ça vous a donné l'audace, ouais.
Avec deux enfants, un métier quand même assez confortable, que je maîtrisais par cœur, parce que je pilote des avions depuis l'âge de 14 ans.
Ouais.
Donc c'était très facile pour moi. Et en plus, j'adorais ça. Donc je pense que le déclic, c'est ça, c'est de se dire, j'ai réalisé mon plus grand rêve, qui me semblait surtout intouchable, inatteignable, ouais. La question que vous me posiez tout à l'heure, c'est que pensait mon entourage enfant ?
Ouais.
Je me souviens encore au collège, au lycée, où mes profs riaient.
Ouais.
Ils me disaient, mais toi, militaire, jamais. Toi, pilote de chasse, impossible. Et bon, enfin voilà.
Et pourquoi ? Parce que vous n'aviez pas le niveau ou pas l'attitude ?
Parce que, bon, pour deux, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense qu'il y avait, j'adorais le rock, j'étais dans un groupe pendant des années, donc j'avais peut-être pas la tronche.
Le look militaire.
Voilà. Même si avec les cheveux courts, j'ai plus l'air d'un pilote, ça passe aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils pouvaient pas s'imaginer.
Okay.
Et puis, je pense que souvent, l'entourage, alors je veux pas dire les profs, parce que j'ai des très bons profs, mais souvent, ils vous renvoient leur propre frustration ou leur propre manque d'audace dans leur propre vie.
Mmh.
Et donc, quand ils vous disent tu n'y arriveras pas, et il vous renvoie en fait, moi je soit j'ai pas réussi ou j'avais des rêves, je les ai pas réalisés, et donc il y a pas de raison que ceux qui rêvent plus fort que moi y arrivent. Et souvent, plein de gens se sentent limités parce que leur entourage les pousse pas. Il y a toujours un grain de folie à prendre des risques. Et si il n'y a pas un petit environnement qui effectivement peut conseiller, mais un environnement qui laisse cette expression de cette folie, les choses n'avancent pas. Voilà.
Et vous l'aviez en vous du coup, ou c'est c'est au niveau familial qu'il y avait cet accompagnement?
Non, je l'avais vraiment en moi. Pour ma famille est bourguignonne. Il y avait des Mirage 2000 qui passaient depuis que je suis gamin au-dessus de moi. Je trouvais que le bruit était fou. Je trouvais ça incroyable.
Vous aimiez bien le bruit?
Ouais, je trouvais ça dingue. Je me disais, mais comment c'est possible d'être le seul élément organique de cette espèce d'immense fusée qui crache des flammes? Je trouvais ça fou. Et donc ça, plus ensuite le roman de la bataille d'Angleterre, les Spitfire au-dessus de la Manche, l'engagement pour son pays, le patriotisme et tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont construites, qui ont fait qu'on a envie de se dire, voilà, j'aimerais bien un moment donner de mon temps pour mon pays. C'était la façon que j'avais, c'était ma passion de voler. Donc,
Et donc, c'est réellement très difficile?
Oui. c'est très difficile. Piloter un avion de chasse, c'est très facile. En vrai, c'est pas très compliqué. Beaucoup de gens.
Il suffit d'appuyer sur un bouton, puis ça se fait.
Pas vraiment, mais non, mais je veux dire, en gros, il y a deux choses qui rendent les choses difficiles. La première, c'est le temps de formation est compté, puisque l'État français n'a pas vocation à dépenser des centaines de millions d'euros sur des candidats qui y arriveront moyennement. Mmh. Donc, ils choisissent seulement ceux qui peuvent y arriver très vite.
D'accord.
Deuxièmement, la mission est complexe. L'avion est facile à piloter, grosso modo, surtout les avions modernes. La mission est très compliquée.
Oui.
Et le fait de choisir que les éléments qui sont faits pour ça, en fait, un peu naturellement, fait qu'ils ont une chance d'assurer leur sécurité, celle des autres, et de remplir correctement leur mission dans un environnement de stress intense. Voilà. Mais en vrai, sinon, je pense que de façon isolée, beaucoup de gens pourraient y arriver, beaucoup plus que le nombre de pilotes de chasse d'aujourd'hui. Mais pourquoi il y a peu d'élus? C'est parce que la sélection est très rude.
Et très rude. Mmh. Et vous me disiez, off micro, quand on s'est rencontrés pour la préparation de cette interview, que vous avez fait en partie la formation en Touraine, où donc nous, on a notre atelier, et que c'était très dur à ce moment-là, puisque justement, c'est là où se faisait la sélection.
Ouais, alors en fait, c'était de la formation, ouais. Mais il se trouve qu'à Tours, c'est la dernière année, en gros, avant d'être macaroné. Macaroné, c'est on vous remet vos ailes de pilote de chasse, donc on est si proche du but, et en même temps, quand on arrive à Tours, on sait qu'on arrive un peu en enfer, voilà. Bon, les temps ont un peu changé.
Ce qu'on retiendra de Tours.
Pour vous,
pour vous, oui, clairement.
Mais vraiment, pour beaucoup de. Mais après, oui. C'est aussi très bon moment, parce que c'est aussi un moment de succès, in fine. Mais c'est un moment où on arrive en promo, un peu soudé, et quasiment toutes les deux semaines, il y en a un qui se fait virer.
Okay.
On a l'impression que c'est de façon arbitraire.
Ah oui.
Parce qu'on est dans une meute de loups, en fait. On est dans. Le niveau compte, mais l'attitude compte aussi. Et ce que les gens voient en vous. Donc, il y a un côté très arbitraire, parce que c'est pas que t'as eu 15 sur 20, ou si tu passes, t'as la moyenne ou t'as pas la moyenne. C'est pas ça. On vous jauge, en fait, en permanence. Mais voilà, dans le monde civil, ça paraîtrait complètement fou, incongru, hors des clous. Mais je trouve que tout ça se justifie, voilà, malgré tout. Et donc, passer au travers de ça. C'est un peu traversé un stage de survie et on en est très fiers quand ça se finit, quoi.
Et j'imagine. Bravo. Et d'ailleurs, vous parliez donc de stress intense. Avant donc de nous lancer sur le Japon, par rapport à votre métier actuel de chef d'entreprise et restaurateur, qui est aussi connu pour être assez stressant, comment, entre les deux, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus stressant, ou c'est également stressant mais différemment?
Non, en fait, je dirais pas que c'est stressant, c'est déjà deux métiers très différents.
Oui.
Il se trouve que aujourd'hui, chef d'entreprise, c'est être responsable du destin d'une aventure, et puis surtout du destin de devenir social de personnes qui vous entourent, dont on est responsable. Donc c'est plus le poids des responsabilités aujourd'hui qu'un stress.
Qu'un stress, ok.
Voilà, et puis c'est un travail physique, même si on n'est pas en cuisine, c'est quand même un métier manuel, donc il y a un côté charnel aussi bien sur la cuisine, mais sur les contacts humains, il y a quelque chose de beaucoup plus. On n'est pas dans un bureau, quoi. C'est, mmh. ça reste de la cuisine, ça reste du contact avec les clients, on n'est pas devant un ordinateur, voilà.
Mais donc par rapport au stress que vous avez vécu en tant que pilote de chasse, ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
C'est des vacances.
Bon, déjà, on risque pas sa vie.
Oui.
Ensuite, on peut plus temporiser, alors que dans un avion de chasse, forcément, les choses vont beaucoup plus vite. Donc voilà, mais donc on a plus le temps. On est plus capitaine d'un navire. Que pilote de Formule 1 quand on est chef d'une entreprise comme la nôtre. Donc ça n'empêche pas de... Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. C'est pilote de Formule 1, on n'emmène qu'une personne. Et pilote d'un paquebot, on a l'honneur d'emmener beaucoup de gens avec soi.
Mais on est moins dans un temps court, on peut être plus réfléchi et plus construire. Mais donc, partons donc au Japon. Quel a été votre tout premier contact avec ce pays ?
Alors, physique ou en soi ?
Premier, pas physique, la première fois que vous avez entendu parler du Japon.
Je pense que mon premier souvenir, en fait, mon parrain faisait des documentaires, il s'appelait François Reichenbach. Il allait beaucoup au Japon, il était passionné par le Mexique, mais aussi par le Japon. Et il me rapportait souvent des jouets qui étaient inconnus à l'époque, c'est-à-dire des espèces de monstres, des robots, etc. Donc il y avait quelque chose qui était assez original, qui était ça. Et puis j'ai le souvenir de l'hôtel Nikko. Et on a ce premier souvenir de goût de dashi, de mirin et de shoyu.
Excellent.
C'est le Benkei maintenant qui est dans le 15e, mm-hmm. Qui était l'hôtel Nikko à l'époque. Et c'était une révolution, quoi. C'est-à-dire de manger une espèce de poisson avec des couleurs, avec cru sur du riz, je sais pas ce que c'était, mais je me souviens encore de zuku, de dashi aujourd'hui.
Et vous aviez quel âge ?
Je pense que j'avais dans les 5 ans.
Ah ouais, tout petit alors.
5, 6 ans, pas beaucoup plus.
Génial, on vous emmenait au resto.
Alors j'avais le plaisir de mes parents, j'ai un souvenir du samedi souvent, ou enfin pas tous les week-ends, mais régulièrement, ils nous emmenaient dans des restaurants de nationalités très, très diverses. Donc,
c'est le privilège d'être parisien, ça.
Ouais, c'est ça. mais vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Donc ça, c'est l'étincelle.
Okay.
Et puis après, ça continue par les mangas, simplement.
Ouais.
Enfin, les dessins animés.
Parce que vous parliez en introduction du fait que notre génération, on a été baignés dans la culture japonaise.
Oui.
C'est par ce biais-là, c'est les mangas.
Oui, complètement. Ouais. Mais en fait, c'est pas tant, je me réfère pas à un dessin animé, mais je prends... je compare ça à nos parents qui, pour qui la culture, enfin, ou l'imaginaire de leur enfance, de leur jeunesse, était les États-Unis, baignés par les années 50, l'après-guerre, les yéyés, le rock'n'roll, les grandes voitures, les premières stations-service, les premiers supermarchés. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais ça fait partie de l'univers culturel d'une génération. Nos parents, c'est
les États-Unis.
Je pense que, en tout cas, moi, on l'a subi, ou c'est le Japon. Et c'est pour ça qu'on retrouve autant d'intérêt aujourd'hui pour le Japon, de gens qui ont 30, 40 ou plus, enfin, en gros, une quarantaine d'années. Mais je pense que c'est la première génération qui a cet intérêt. Et d'ailleurs, attention, c'est pas un Japon comme avant. C'est-à-dire que là, c'est un Japon de rue, de populaire, du quotidien. C'est plus un Japon plus traditionnel. Donc c'est intéressant. Voilà.
C'est vrai que c'est intéressant pour les pays, pour avoir attiré, parce qu'aujourd'hui, donc, le Japon est devenu un pays ultra touristique, il ne l'était pas avant. C'est hyper intéressant de considérer ça, qu'en fait, il faut infuser ça dans l'enfance des pays, des autres pays, c'est grâce, en effet, à toute l'avance qu'ils avaient dans les animés pour qu'ils ont aujourd'hui... Cet attachement, c'est parce que c'est vrai que, bon, en France, on est particulier quand même. On a vraiment un attachement très particulier au Japon. Et c'est quelque chose de quasiment, filial, quoi. C'est qui remonte, en fait, à l'enfance, à des souvenirs
ça, c'est ce que je subis. Mmh. Mais maintenant, un de mes intérêts pour le Japon, c'est de me rendre compte d'une forme de similitude entre les pays.
Ouais.
L'attachement au terroir, l'attachement à l'agriculture, aux saisons, à l'artisanat. Et voilà, il y a toute une partie qui m'attire dans le Japon, parce que je vois une France peut-être qui n'est plus, parce qu'ils sont beaucoup plus traditionnels.
Bah, beaucoup plus, ouais.
Et du coup, peut-être que voilà, c'est une sorte de... peut-être un petit côté nostalgique aussi qui me fait aimer le Japon.
Des valeurs que vous appréciez en France, que vous retrouvez au Japon. Quoi.
Exactement, bien sûr.
Et donc, le Japon vous a-t-il d'entrée de jeu attiré ça s'est fait progressivement.
En fait, ça m'amuse, c'est tout ça qui naît, et je pense qu'il y a une bascule, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je sais que je prends le bus 68, j'étais dans le 14e.
C'est précis.
Bien sûr. Je descends avec le bus 68 pour aller chez Kyoko, donc relativement loin de chez moi. J'ai 11 ans, donc j'ai l'impression de faire la plus grande aventure de ma vie, parce qu'il y a quand même une demi-heure de bus.
Donc Kyoko est l'épicerie japonaise près d'Opéra.
Exactement. Et je me retrouve là à regarder les produits, et j'y retourne régulièrement comme une sorte de pèlerinage pour un bout de Japon. En fait, c'est mon ambassade à moi, et j'achète des choses avec les quelques francs que j'ai, sans comprendre forcément ce que j'achète d'ailleurs, parce que je comprends rien. J'ose peut-être pas demander. J'achète des barquettes de sushi à 35 francs, je m'en souviens à l'époque. Pareil, aujourd'hui, c'est une grande banalité, mais à l'époque, j'avais l'impression de découvrir quelque chose de fou.
Ouais. Et c'était probablement à l'époque beaucoup moins courant qu'aujourd'hui.
Bien sûr, oui, complètement. Et donc voilà, et en fait, ma passion pour le Japon, je la vis comme ça, je la vis au travers de la cuisine. Je reçois à Noël des bouquins de cuisine japonaise, et puis je m'y mets. Et en fait, je cuisine toute mon de ces 11 ans à adolescent, japonais, ou de façon japonaise, c'est-à-dire que j'ai très peu cuisiné français, ou dès que je cuisine quelque chose de français, je suis obligé de le twister de façon japonaise.
Ok, et donc la cuisine chez vous, dès le départ, c'est quelque chose qui vous attirait beaucoup?
Ouais, tout de suite, en fait c'est ma façon de, c'est encore aujourd'hui bien sûr, mais c'est ma façon de tenter de comprendre cette immense culture très vaste qu'est la culture japonaise.
Et donc, quelle a été la première fois où vous avez voyagé au Japon ?
Eh bien, en 2008.
Ouais.
Donc, je ne suis plus pilote de chasse, je viens de quitter l'armée de l'air. Je me retrouve au sud de Tadoman, pays que je ne connaissais pas.
Je ne connais pas non plus.
C'est un très beau pays.
Voilà.
Un très beau pays avec des gens extraordinaires. Et qui est collé, c'est un pays qui est complètement à l'est de la péninsule arabique.
D'accord.
Donc, ouverte face à l'Inde et puis plus au sud de l'Afrique. La Tanzanie et tout ça. Et donc je me retrouve dans ce pays, première fois où je me retrouve dans le contact, dans un environnement musulman, arabe, et que je connais pas du tout. Et donc c'était assez extraordinaire. Et donc je fais mon premier voyage au Japon à ce moment-là, parce que en tant que pilote de ligne, on a le droit à des staff tickets.
Ah oui.
Le premier que je prends. Je vais dans la petite cahute parce qu'il n'y avait rien d'électronique à l'époque, donc elle est encore en train de faire mettre des tampons, enfin c'est des vieux billets comme ça se fait plus. Et je dis je veux partir à Tokyo, donc j'ai mon billet et je pars dès que j'ai mes premiers jours off, je pars à Tokyo.
Et vous aviez quel âge ?
27 ans.
Donc vous aviez attendu de faire votre première carrière de pilote de chasse avant d'aller au Japon ?
Exactement, ouais. Parce que pas l'argent, pas le temps.
Bien sûr, moi j'aurais jamais été au Japon si la vie ne me l'avait pas proposé.
Voilà.
Pour plein de raisons, je comprends parfaitement. Ouais.
Et donc là c'est quand même assez extraordinaire parce qu'en plus de l'excitation, une excitation de plus forte que le soir de Noël, enfin je sais pas comment on est gamin, j'étais comme un fou. Mais il y a deux choses qui m'ont étonné. La première, c'est ce sentiment de familiarité. J'ai l'impression d'être dans un environnement que je connaissais.
Ah oui.
Alors que j'avais jamais mis les pieds. Parce que, et là, je reviens justement à ces jeux vidéo, à ces mangas, à cette architecture, cette ambiance de Tokyo qu'on voit dans plein de films, etc.
J'ai eu le même sentiment, c'est très bizarre.
Ah ouais, ouais. C'est amusant. Le bruit des corbeaux qui est typique à Tokyo, mais et qui tout d'un coup j'y repense, je dis mais oui bien sûr ce bruit de corbeaux, ça me fait penser à je sais pas à Nicky Larson, à d'autres différents trucs des jeux vidéo, etc. Donc première chose, ça me semble très familier. Et puis tout d'un coup, quelque chose qui m'ouvre vers le Japon, et pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est que je me précipite en sortant de l'aéroport à manger un ramen, parce que je mangeais des ramen à Paris où j'en faisais moi-même, okay. Mais sans internet, sans recette, sans rien. Et puis bon, à l'époque, les ramen à Paris, c'était pas aussi fou que ce qu'on peut trouver au Japon. Et là, ça me met une baffe. Et je me dis, mais ce qui me fait rêver depuis tant d'années, est en fait 1000 fois meilleur que ce que je pensais.
C'est vrai.
Ouais.
Génial.
Et là, c'est une claque en se disant.
Comme quoi, mais ça arrive dans la vie parfois.
Ouais, complètement. Mais en fait, c'est assez fou. C'est vivre quelque chose sans jamais l'avoir vu, enfin sans jamais l'avoir touché. Souvenons-nous, c'est comme aujourd'hui, on dit mais comment on faisait quand il n'y avait pas de téléphone portable. Mais à l'époque, comment on faisait quand il n'y avait pas Internet. Enfin, où il n'y avait quasiment pas Internet en 2008. Enfin, je veux dire, pas dans les proportions d'aujourd'hui.
Ouais.
On pouvait s'envoyer des mails, il y avait plein de choses. Mais il n'y avait pas YouTube, vraiment.
Ouais.
Il n'y avait pas les blogs, il y avait, enfin, les blogs. Il n'y avait aucune commune mesure avec aujourd'hui. Et donc, bref, cette première baffe, en fait, me donne envie, mais de parcourir le Japon pour comprendre pourquoi en fait j'étais persuadé de quelque chose et pourquoi c'est en fait si différent, si varié. Et là, je mets vraiment le doigt dans un truc qui me happe complètement.
Donc, vous vous passionnez de ramen à partir de ce moment-là?
Ouais, bien plus. Enfin, j'étais déjà passionné, mais en tout cas, c'est plutôt la culture des ramen qui fait décupler cette envie de poursuivre.
Qu'est-ce que vous, du coup, vous appréciez dans les ramen et la culture des ramen?
Alors, c'est bon. Ça, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà bien.
C'est déjà essentiel. J'adore ça. Il y a un côté hyper addictif. Et parce que derrière les ramen, pour moi, il y a le dashi.
Ouais.
Il y a quelque chose de très, très addictif qui me rend assez fou.
Et donc, le dashi, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, le dashi est une infusion, on peut dire, de différents. Alors, en gros, c'est souvent du poisson séché, souvent du kombu, qui est une algue. Et shiitake, on va dire que c'est la base, mais il y a d'autres choses. Mais c'est une infusion en fait qui va extraire différents composants qui vont donner ce qu'on appelle l'umami, le bon goût, et c'est ça qui est addictif. Donc voilà, donc ça c'est technique,
oui.
C'est gustatif, mais une des raisons qui me fait aimer les ramen, c'est la culture et l'histoire.
D'accord.
Parce que les ramen, c'est un plat qui est assez moderne, mais qui, pour moi, la vraie carte postale, le drapeau, ce qui représente, selon moi, le Japon aujourd'hui.
D'accord.
C'est-à-dire, évidemment, ancré sur un passé qu'on va retrouver sur l'amour des produits, le terroir, le dashi, bien sûr, le travail sur l'umami, l'histoire de l'ouverture de ses frontières à la moitié du 19e siècle. C'est pour ça qu'on a ces nouilles d'origine chinoise qui composent le ramen.
D'accord. C'est à ce moment-là que le ramen est créé, à partir de là...
C'est là où il commence à se passer quelque chose, ou en tout cas, il y a on pourra en reparler, mais des cuisiniers chinois qui commencent à venir à Yokohama.
D'accord.
Ouvrir leurs échoppes. Et c'est seulement dans les décennies qui ont suivi, officiellement, parce qu'il y a plusieurs histoires, mais officiellement, on dit que ce serait en 1910 dans un restaurant à Asakusa. Qui s'appelle Lai Lai Ken.
C'est hyper précis, ouais.
Ouais. Mais en fait, si vous voulez, ça s'est fait assez naturellement. Mais en gros, le ramen parle de ça, mais le ramen aussi parle de l'après-guerre, du besoin de se nourrir, des salarymen au quotidien, de fait de manger rapidement, pas cher dans la rue. La compétition même qui se passe entre les différents chefs, et pourquoi en fait cette compétition fait que plutôt de se tirer dans les pattes, il y a toute une culture qui est en train d'émerger et qui fait que au lieu de rendre les choses assez plates, en fait il y a toute une communauté de chefs qui émerge. On se retrouve avec des nouveaux ingrédients qui arrivent, de plus en plus précis, complexes, donc des nouveaux ramen, donc quelque chose qui évolue en permanence. Et c'est peut-être un des rares plats dans la gastronomie japonaise qui évolue autant. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Et pourtant, c'est vraiment le Japon. Voilà.
Oui, parce que là, ce que vous dites est hyper juste par rapport à la culture japonaise de manière générale. C'est qu'elle est tellement amoureuse de ses traditions que parfois, ça peut en devenir paralysant Et donc, dans le milieu de la pâtisserie, c'est vrai que c'est le cas. J'ai pu l'observer qu'il y a une variété infinie de wagashi, donc c'est une raison suffisante aussi de ne pas créer toujours de nouvelles choses. Mais il y a aussi un peu l'idée qu'il ne faut pas faire autrement que de la tradition. Et du coup, il y a ça. Mais pour autant, vous dites que dans le milieu des ramen, ce n'est pas du tout le cas.
Non, il y a ce qui est vraiment où tout le monde va être assez strict et regardant, ça va être est-ce que l'ADN du plat est respecté, est-ce que en gros l'architecture, la tradition, la philosophie en fait et la culture du plat est respectée. Mais une fois qu'on a respecté ça, en fait, c'est hyper libre.
D'accord.
Et en ça, je trouve que c'est tellement précisément ce qu'est le Japon aujourd'hui, que en faisant des ramen, j'ai vraiment l'impression de vivre le Japon. Et puis même gustativement parlant, c'est vrai qu'il y a toujours un s'affronte ou se marie l'océan, la terre, le porc, le poulet, le dashi avec le poisson, les coquillages avec de la viande. Enfin voilà, pour moi, c'est ma quête d'essayer de comprendre cette culture un jour. C'est au travers du ramen, parce que je sais que si je comprends parfaitement les ramen, j'aurais fait mon petit bonhomme de chemin dans ma vie au Japon.
Et vous dites que vous êtes formé du coup au ramen au Japon. Où est-ce que vous avez été? Qu'est-ce que vous avez fait pour comment est-ce que vous avez fait pour vous former au ramen au Japon?
Alors premièrement, en fait, j'ai fait une école qui est à Osaka avec Rikisai Miyajima, qui est un chef qui a une école qui s'appelle Ramen Dream Academy.
Ok.
Et je l'ai faite, cette formation, étant pilote à l'époque, avec ce rêve de faire des ramen, mais j'ai plus fait cette formation pour me tester, pour voir si j'aimais ça, en fait. J'avais réellement jamais été dans une cuisine professionnelle, donc ça m'intéressait de voir.
Et il prenait, comment la sélection se passait?
Aucune sélection.
Cette école. Donc ceux qui étaient intéressés, ça a duré combien de temps?
Alors là, c'était juste une journée. C'était vraiment un stage court. Et j'ai réussi, parce qu'en fait, encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'internet.
Oui, c'est hyper difficile, mais encore aujourd'hui, de trouver des endroits où justement typiquement se former. Parce que c'est vrai que c'est important quand on a un projet de le concrétiser aussi en le vivant.
Et en fait, mon point d'entrée dans tout ça, dans toute cette aventure, c'est un Américain qui s'est retrouvé un peu par hasard au Japon parce qu'il était prof d'anglais à Tokyo.
Okay.
Et en fait, c'est un Américain un peu loufoque qui s'appelle Brian McDuckson, qui a été, en 2008, d'ailleurs, c'était au même moment où j'y vais, qui était le premier à faire un blog sur les ramen.
D'accord.
Et c'est très, très connu au Japon.
Ah je vais le noter pour les lecteurs. Je vous le demanderai.
Ramen Adventure, oui, bien sûr. Autant au Japon avait partie intégrante cette culture de faire des guides, de conseiller, de voyager partout au Japon pour essayer de comprendre la culture, mais il n'y avait rien en anglais.
Okay.
Donc il y avait lui qui a commencé, et un autre Américain d'origine japonaise qui a fait ça.
D'accord.
Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai commencé à rentrer un peu dans ce monde. Je fais cette formation. Et puis, à force de voyager, de rencontrer du monde, et aussi grâce à lui, je rencontre des chefs.
Ok.
Et puis, les mois passent, je reviens régulièrement. Et puis, à un moment, je dis que j'aimerais bien apprendre à faire vraiment des ramen, parce que cette première expérience m'avait convaincu. Et je voudrais en savoir plus. Bon, ils m'ont tout de suite dit, mon coco, on verra plus tard. Mais à chaque fois, c'est à la japonaise, c'est pas vraiment non, mais c'est surtout pas oui, quoi.
C'est pas oui.
Moi, j'étais un peu vexé, je me suis dit, bon, je comprenais, je me suis dit, bon, ça prendra le temps que ça prendra. Et en fait, ça a pris quand même pas loin de 2 ans.
D'accord.
Pas loin de 2 ans où...
Est-ce que vous leur demandiez de venir en cuisine
Oui, je voulais travailler dans leur restaurant.
D'accord.
Je voulais comprendre, je voulais qu'ils me forment. Il n'y avait pas plus d'école que ça, donc à l'époque. Je voulais un peu à la française de mettre mon pied dans la porte et m'incruster, quoi.
Bah oui.
Mais c'est pas comme ça au Japon.
Bah non.
Donc ça a pris 2 ans.
C'est plutôt mal vu d'ailleurs de vouloir mettre le pied dans la porte.
Oui, mais après on hérite de sa culture.
Bien sûr. Et puis je veux dire, en tant qu'étranger, on a le droit de faire des gaffes. Heureusement, c'est plus pardonné que.
Ouais, je sais. Et c'était vraiment par par envie et par enthousiasme en fait. Et bon, enfin, je réitère mes demandes, on se voit, on dîne souvent ensemble et c'est très sympa. Mais je pense que toute cette période là était juste pour me pour me jauger, pour voir la sincérité. C'est-à-dire que c'était compliqué. Ils se disent mais qui est ce mec, bah pourquoi, comment. Enfin. Et puis un soir, on est dans un izakaya bien arrosé. Et puis il se passe qu'il y a une bascule. Alors je sais pas si c'était prémédité, je l'aurais même jamais demandé. Hein. Et on était tous ensemble et ils m'ont dit ok JB, on va te former. Mais on veut que tu sois l'ambassadeur de cette culture chez toi. Et on veut que tu respectes précisément en fait cette culture, ses codes. Et là j'ai senti un moment assez important. Intime, alors bon, là on en parle parce que voilà, c'est pas une question d'image ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est un moment fort en fait dans ma vie, parce que je sens une responsabilité, c'était ce que je voulais. Bon, après, une fois on dit oui, je veux, mais une fois qu'on l'a, on sent le poids, il se passe quelque chose. Donc je dis, bah, bien sûr, parce que c'est ce qui me plaisait. Moi, j'avais pas envie de faire des ramen pour faire autrement que comme eux que j'admirais, ou de leur façon qui était pour moi admirable. Et voilà, et en fait tout commence là, tout bascule à ce moment-là. Donc je commence à visiter leur restaurant, plus précisément dans leur moi derrière en cuisine, on en parle. Et puis là, ce qui était assez génial, il y a un chef qui s'appelle Koitani-san qui aujourd'hui d'ailleurs a une école. On a fait une école, mais à l'époque l'école n'existait pas. Et fait venir cette bande en fait, et cette bande de copains chefs que j'avais vu viennent dans cette cuisine me former.
D'accord.
Donc il y avait que moi et des chefs qui sont des légendes absolues.
Mais non, comment c'est possible d'avoir une chance pareille?
Mais c'est le destin.
Ah ouais.
C'est le destin. C'est le destin et c'est le destin qui vous responsabilise. Ouais. C'est pas juste je vais apprendre une recette. En fait, d'ailleurs, j'en ai pas retiré grand chose en termes de recettes.
Oui.
J'en ai surtout retiré un état d'esprit, une culture. Et en me disant bah voilà où la barre, voilà où les niveaux, et voilà. Donc c'était plus une ambition quoi, de respecter ce qui me donnait quoi.
Voilà. Ouais. Et donc par exemple pour les auditeurs qui eux ont un rêve aussi, pas forcément dans le ramen, mais mettons dans la gastronomie au Japon ou même dans l'artisanat de manière générale, ce qui a retiré, c'est le fait que donc vous avez été au Japon, vous avez été dans ces restaurants de ramen que vous avez adorés, vous avez contacté les chefs de ces restaurants pour leur demander si c'était possible de vous enseigner. C'est ça ce que vous avez fait?
En gros, oui.
En gros,
dans la grande ligne, c'est ça.
Ils ont mis du temps.
Oui.
Et en fait, cette soirée dont vous parlez, il y avait plusieurs de ces chefs-là qui vous avaient invité. Comment ça s'était passé?
En fait, on se voyait souvent quand j'allais à Tokyo, on s'appelait.
Comme vous faisiez des allers-retours.
Oui, c'est ça.
C'était devenu des amis.
Oui, exactement. C'était devenu des amis. Donc, donc voilà.
Excellent.
Et voilà comment ça s'est passé. Et puis là, c'était à ce moment-là, en fait, où on a vraiment envie de franchir le pas.
Ouais. Et donc, vous avez franchi le pas.
Oui. Mais si on revient, parce que là, vous parlez des auditeurs, parce que c'est intéressant, parce que mon histoire, bon, elle est marrante, amuse-moi, mais ce qui est important, c'est chaque personne qui nous écoute.
Oui.
Lorsqu'on a un rêve, mais n'ayant qu'une vie, en fait, cette vie mérite qu'on les réalise, ces rêves. Donc, ça mérite de prendre ces risques. Ça mérite qu'on aille jusqu'au bout. Et souvent, les plus grandes limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose à soi-même. Et d'arriver à casser ces barrières, c'est la plus grande liberté et chance qu'on puisse s'offrir. C'est pas tant le fait que les chefs m'aient ouvert leurs portes, c'est qu'à un moment donné, j'étais prêt à, pas à tout, mais enfin, quand je dis prêt à tout, oui, j'étais prêt à tout en vrai, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais j'étais prêt, en tout cas, à aller jusqu'au bout de mon rêve. Parce que, comme je vous ai dit, je me sentais plus avoir de limites. Pas parce que j'étais fort ou pas fort. Parce que j'étais rentré dans un process en ayant réalisé ce rêve d'être pilote de chasse. J'avais plus d'inhibition, vraiment.
Oui, vous saviez que en fait tout était accessible si vous le souhaitiez vraiment, quoi.
Pour info, Kodawari, c'est l'investissement, c'est mes économies personnelles.
Ouais.
Il y a pas un groupe, il y a pas un financement, il y a pas mes parents, il y a pas d'héritage, il y a rien. C'est juste moi perso, et c'est mes économies, celles de mon épouse, et on a mis tout ce qu'on avait sur la table.
Mais c'est comme la maison du Mochi, c'est la même chose pour nous.
Et on s'est dit, bah, au pire, on est ruiné.
Ouais. Mais on pourra se refaire.
Et après quoi? Enfin bon, donc ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est pas avec les économies qu'on a fait Kodawari, c'est surtout avec grâce à la banque.
Ouais.
Et ce que je veux dire, c'est souvent j'entends des copains qui me disent, ah, j'ai un rêve, je rêverais de faire ça. Mm. Et je dis, mais pourquoi tu fais pas? Ils me disent, mais parce que j'ai pas d'argent. Mais je me permets de penser qu'on n'est pas obligé de faire un grand projet. On peut commencer petit pour voir si on aime ça, pour convaincre les autres autour de soi. Et puis, quand on est très, très convaincu, très, très habité par son idée, très souvent, le financement, il finit par venir.
Oui.
Voilà. Et donc, je dis pas ça. C'est pas une question d'arrogance. C'est une question pour donner envie et confiance aux gens. Que le monde manque de gens assez convaincus. Après, il faut pas être mythomane. Il faut pas être... il faut avoir les pieds sur terre. Mais on a le droit de vivre son rêve, en fait, et d'avancer.
Et du coup, vous, suite à cette formation Ramen, là, vous êtes intronisé comme ambassadeur du Ramen en France.
Non, je suis pas intronisé du tout. C'est pour ça que je disais très clairement. Là, je me permets d'en parler.
Oui.
Mais non, je me considère pas.
Non, mais vous-même, comme vous êtes adoubé quand même par vos amis chefs que vous admirez.
Ouais, c'est de façon intime et non connue, oui.
Oui. Et donc, vous décidez, comment la décision de créer Kodawari se prend? Comment est-ce que vous décidez?
Pendant la grève des pilotes d'Air France.
D'accord. Okay.
Je suis en train de faire des ramen au Japon et dans ma chambre le soir, ça bascule complet.
Ok.
Je me dis, ça y est.
C'est bon.
Ouais.
C'est parti pour la nouvelle vie vers les ramen.
Exactement. Et alors, du coup, l'idée, c'était de faire des ramen de qualité.
Ouais.
L'idée, c'était aussi de raconter un peu mes aventures. Je passe quand même, je conduis pas loin de 20 000 km au Japon, donc souvent seul. Donc c'était une aventure un peu solitaire d'aller à la campagne, d'aller partout avec ma voiture, découvrir le Japon. Et j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de raconter ces histoires. Et puis un peu égoïstement, j'avais envie d'avoir ce petit bout de Japon avec moi à Paris.
Toujours, ouais.
Donc ça justifie en fait la décoration.
Mais donc alors, ces voyages au Japon dans votre voiture, je l'ai sauté. Quand est-ce que vous avez fait ces voyages et quelle était l'idée
Alors l'idée, en fait, si vous voulez, les ramen, c'est quelque chose de multiple.
Oui.
Il y a un ADN, il n'y en a qu'un. Maintenant, il y a autant quasiment de ramen qu'il y a de restaurants de ramen.
Bien sûr.
Donc, et puis il y a des spécialités régionales. Pour aller découvrir, il faut aller dans ces régions.
Ok.
C'était une excuse pour voyager. Mm-hmm. Et puis ça m'a permis de comprendre cette variété. N'oublions pas que j'y connais rien. J'ai rien parce que je percevais de Paris ou de ce que je faisais moi. Et donc je découvre plein de ramen différents. Plein de choses différentes et ça me passionne. Et donc, ces voyages et ces road trips me permettent de comprendre la diversité, me permettent de comprendre la culture, c'est-à-dire une quête pour les clients de ramen au Japon d'aller découvrir cette diversité. Il y a vraiment, par exemple, il y a un classement tous les ans à Tokyo des 100 ramen à faire.
Ah ouais.
Et la quête de chacun, c'est de mettre une croix dans la case des 100. Voilà, il y a le magazine le plus connu au Japon qui s'appelle le Walker. Et Walker, c'est celui qui marche. Ça précise bien ce qu'est cette culture. C'est-à-dire que c'est une culture de marcheurs qui vont aller de ville en ville, souvent faire 1h30 de train, de RER pour aller manger un ramen qui est loin de chez soi, faire 2 heures d'attente. Enfin, c'est une vraie passion pour beaucoup de gens.
Ça rappelle le gourmet solitaire, la bande dessinée.
Oui, exactement. Ouais.
Et le Walker, donc c'est un magazine spécialisé dans les ramen.
Oui.
Ah ok.
Enfin, ils ont plusieurs plats d'ailleurs, mais pour chaque région, il y a un Walker de ramen qui est un peu la référence.
Je le note pour les auditeurs. Ok, trop bien. Et donc. Vous le faites en plusieurs morceaux ou vous faites carrément en voiture un périple longtemps?
Non, à chaque fois, si je passe 3 semaines au Japon, je conduis plusieurs milliers de kilomètres et à chaque fois, je me balade. J'essaie en fait d'emmagasiner le plus possible d'expérience, d'en goûter le plus possible. Et cette période-là, c'est vrai que je mange beaucoup, beaucoup de ramen.
Ah, bah, j'imagine. Et ça, c'était, vous retrouviez au Japon pour le travail notamment, c'est ça?
J'y allais que pour le travail.
Ouais.
Non, j'y allais pas du tout pour le travail.
Ah, d'accord, okay.
C'était que pour les ramen.
Que pour les ramen.
C'est pour ça qu'en fait, la plupart de mes vacances, congés, ouais. Parfois jours off, week-end un peu long, je l'ai passé au Japon.
Ah ouais. Et ça, c'était entre... C'était dans quelles années?
De 2008 à l'ouverture de Kodawari. Et en vrai, je continue à faire
à faire ça.
Oh. J'y vais très souvent.
Mais alors, la question de la fin, une bonne adresse au Japon, ça va être impossible de répondre. Non, il faudrait que je vous demande 100 bonnes adresses.
Non, c'est très dur. Après, il y en a un qui me...
Il y aura le droit d'en dire plusieurs.
Il y en a un seul. Non, mais il y en a plein qui faut absolument goûter. Mais il y en a un qui m'a mis une méga claque, qui s'appelle Shima.
D'accord.
À Shinjuku.
Ok.
Qui est bouleversante. Enfin, c'est incroyable.
Bah, on en reparlera du coup, mais là, ça va être précieux aussi pour les auditeurs qui écoutent et qui préparent parfois leur voyage au Japon. Ouais. Est-ce que d'entrée de jeu, vous aviez cette vision de restaurant décoré comme un décor de cinéma?
Tout de suite, au tout début, quand je rêvais de faire des ramen, je rêvais de faire des bons ramen, et après, j'avais envie d'une expérience où on était au Japon.
D'accord.
Je savais pas comment ça allait se traduire, mais pour moi c'était important de c'est pour ça que je disais qu'il y avait un côté un peu égoïste. J'avais envie de me retrouver au Japon dans ce futur restaurant. Donc j'avais envie de récupérer les codes qui me touchaient et qui m'amusaient. En fait très très facilement, très simplement, assez vite d'ailleurs, je me suis dit, et si je disais souvent, j'ai envie de décrocher un morceau de Japon.
Ouais.
Et ben en fait, la meilleure façon de décrocher, c'est de le reconstruire. Et je me suis dit, c'est Yokocho que je trouve assez magique à Tokyo. Pourquoi est-ce qu'on reproduirait pas cette ambiance avec ces échoppes, ces restaurants qui fument, et pourquoi est-ce qu'on le referait pas? Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu conceptuel, et tristement, il n'y a plus grand chose qui ouvre d'asiatique, notamment à Paris ou en France, qui essaie pas de pomper d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas un concept. Je le fais vraiment au début par pur plaisir, quoi.
Ouais.
Comme Tsukiji d'ailleurs, qui est le deuxième Kodawari.
Qui est le deuxième, oui.
Et pour une autre raison, c'est que Tsukiji, à l'enfermer, depuis des années, en fait, j'ai pris des milliers et des milliers de photos de tous les détails, des tables, des mesures, de tout, parce que je savais que ça allait fermer, que ça allait être détruit, et que je voulais absolument préserver un morceau de ce qui, moi, me plaisait tant. J'allais systématiquement à Tsukiji quand je passais à Tokyo.
Et ça a été détruit, Tsukiji?
Entièrement, oui, okay. Entièrement.
Ah oui, oui.
Enfin, en tout cas, le marché intérieur, qui était l'espèce de hall, il reste les magasins
autour,
mais qui sont pas du tout l'ambiance qu'on imagine de Tsukiji.
Moi, j'ai eu la chance, juste avant sa fermeture, de visiter. Mais c'est vrai que je ne savais pas que ça avait été détruit. Mais bon, en même temps, c'est vrai que... Bon, ils auraient pu en faire un musée, mais... Ça aurait plus eu la même vie. Mais bon, revenons pour cette histoire de décor. Moi, je trouve que c'était un parti pris assez osé, parce que assez vite, ça peut faire toc, carton pâte. Je trouve ça impressionnant. Comment est-ce que vous y êtes pris pour que ça fasse pas carton pâte?
Pour une raison simple, c'est comme je le faisais pour moi et que j'aimais vraiment le Japon et que je connaissais bien le Japon. Il était hors de question de faire une déco à la manière d'eux ou faire un truc qui me semblait kitsch.
Ouais.
Donc j'ai emmerdé beaucoup les constructeurs, les
secrets d'entrepreneurs.
Voilà, exactement. Parce que quand il fallait faire une porte, ils faisaient une porte à la française et que les proportions, l'architecture, ce qui fait que ça fait japonais, ils le connaissaient pas vraiment. Et donc voilà. Donc c'est simplement parce que j'avais pas de doute, il était pas question de rendre la copie avec quelque chose qui c'était pas, je voulais pas faire une inspiration japonaise.
Oui, non, mais puis vous seriez planté sinon. Ouais. Donc fallait faire un truc
Par exemple les chochin, qui sont les lanternes en papier, sont faites de façon à la main, de façon artisanale à Shinjuku. Il y a les bouches d'égout qui sont au sol, qu'on voit toujours, qui sont très belles au Japon souvent. Je suis allé les mouler dans la rue.
Ah ouais?
Ouais, avec du silicone. Et je me souviens de l'anecdote parce que je prends chez Tokyo Hands,
ouais,
le magasin, et je vois silicone sèche en 15 minutes.
Okay.
Je dis bon, allez.
Ça se tente.
Sauf qu'il faisait moins 4 degrés et que ça a mis 4 heures.
Ah mince.
Et qu'on a bloqué à moitié la rue, on se faisait engueuler par tout le monde.
Ah, bah, je comprends, ouais.
C'était pas très japonais de bloquer une rue sans autorisation.
Ouais. Bah, même en France, ça passe moyen.
Non, moyen. Enfin, bon, c'était amusant, mais en tout cas, voilà c'était des choses que je préparais déjà parce que je voulais ramener ce qui me plaisait, en fait.
Et vous avez, en fait, je pensais que vous aviez fait appel à des décorateurs de cinéma.
Oui,
de... ouais, c'est ça aussi.
Okay. Oui, c'est ça. Mais en fait, aussi talentueux soit-il, ils ne connaissent pas le Japon.
Ok.
Donc,
oui.
C'est une décoration qui se fait grâce à leur talent et ce qui les patine et leur construction, mais qui se fait aussi beaucoup en imposant ce qu'est, enfin, selon moi en tout cas, le Japon, pour être juste. Et puis beaucoup de choses que je rapporte,
oui,
dans mes valises. Mes valises sont souvent archi pleines de conneries.
De filets de pêche.
Oui, d'élastiques. De secrètement, faut pas le dire aux douaniers, mais j'adore les niboshi, donc.
Qu'est-ce que c'est les niboshi?
Ce sont des anchois séchés. J'adore l'umami que ça apporte, son goût et l'amertume.
Ah oui, ça doit pas être très autorisé dans les valises, en effet.
Non. Parce que c'est interdit d'un import, mais bon, je le fais pour ma conso personnelle, j'adore.
Évidemment.
Et pour la déco aussi, on le met à Tsukiji. Ah oui. Donc, voilà. Ouais.
Excellent. Et pour ce qui est donc, du ramen en lui-même, voilà, donc vous êtes formé, vous êtes passionné, ça fait maintenant depuis 2008 donc, que vous travaillez le sujet. Donc, il est l'heure de vous poser cette question centrale. Quel est le secret, selon vous, d'un bon ramen?
Alors, un bon ramen, comme le bon chasseur, le bon ramen, c'est déjà comprendre de quoi il est constitué. Il est constitué de 5 éléments. Premièrement, ce sont les nouilles. C'est un plat de nouilles. C'est pas autre chose qu'un plat de nouilles. Avec de la soupe, certes, mais c'est un plat de nouilles. Donc, la star de tout, ce sont les nouilles. C'est pas la viande au-dessus, c'est pas les accompagnements.
C'est pas le dashi, c'est les nouilles.
C'est les nouilles. Et maintenant, le dashi, la soupe, c'est ce qui va nous permettre d'apprécier ces nouilles. Et donc, ce sont des nouilles de blé, des nouilles avec du kansui. Les kansui, ce sont des carbonates. Et toute l'origine chinoise est là.
Qu'est-ce que c'est, des carbonates?
Alors, c'est un carbonate, ce sont des composants donc basiques qui vont rendre basique la pâte, qui vont permettre de conserver les nouilles,
okay,
qui vont permettre de donner une couleur un peu plus jaune à ces nouilles, et qui vont aussi donner une texture particulière qui va différencier les nouilles de ramen d'autres types de nouilles, des soba ou des spaghettis par exemple.
Mais c'est un ingrédient?
C'est un ingrédient,
ah,
oui. C'est carbonate de potassium,
okay,
et carbonate de sodium.
Excellent.
Voilà. Et les Chinois ont toujours utilisé ce décarbonate dans leurs nouilles.
D'accord.
Et souvent on dit le ramen c'est un plat chinois. Non, c'est un plat japonais. La seule origine, mais dont les racines sont chinoises, parce que ça a été la transformation de plats de nouilles et de soupes chinois qui sont arrivés au Japon progressivement, qui avaient beaucoup de succès.
Mm-hmm.
Et j'ai envie de dire pour un raccourci, mais c'est au moment où les Japonais mettent de la sauce soja et du dashi dans ce plat que ça devient un ramen.
D'accord, parce que en Chine, il n'existe pas de ramen. Ou alors, ils ont été importés du Japon, ceux qui...
Ah oui, bien sûr, oui, ouais, bien sûr.
Ça.
Mais
okay.
Non, il n'y a pas de ramen.
Ça, ouais.
Oui, en fait, vous voyez, même aujourd'hui, même quand on va dans des restaurants chinois, il y a souvent des soupes qui ont d'ailleurs peu de goût, avec des nouilles de blé, avec un peu de kansui.
Mm.
Mais quand vous le goûtez, il n'y a pas du tout... on ne peut pas dire que c'est un ramen, parce qu'il manque ce que, justement, je vais décrire derrière.
Ouais.
Mais c'est vraiment... On est un travail profond sur l'umami, qui pour moi est vraiment un des piliers en fait de la cuisine japonaise. Il y a toujours ce travail qui est autour de cette umami. Donc c'est là où ça commence à basculer en ramen.
Ok.
Premièrement, il y a donc les nouilles.
C'est moi, j'ai fait la parenthèse. Donc les nouilles.
Ensuite, okay. La soupe.
Ouais.
La soupe, elle est libre. Elle est peut-être classiquement un mélange de poule et de porc. Mais en fait, elle est assez libre. On peut très bien faire un ramen végétarien et que ça s'appelle quand même un ramen.
Mmh.
Donc, il y a une soupe. Mais l'intérêt de la soupe, c'est quoi? C'est qu'elle aille avec les nouilles. Et qu'on crée en fait un lien mécanique par la forme des nouilles et le type de soupe qu'on a, mais un lien aussi chimique avec l'absorption par les nouilles de cette soupe.
D'accord.
Et donc le plaisir, c'est de se faire ce ping-pong en fait entre la soupe et les nouilles. Et après, on a de l'huile, du gras. Sans gras, c'est pas un ramen. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les soupes chinoises, c'est clairement pas un ingrédient sur lequel ils travaillent. Il y en a très peu. Et donc, il manque quelque chose, selon moi. Et c'est ça qui fait que c'est pas très bon. Enfin, que ça manque de profondeur, de puissance, de goût. Et l'huile, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va faire le lien entre la soupe. Elle va aider, en tout cas, au lien entre la soupe et les nouilles. Ensuite, on a le taré. Le taré, c'est la sauce. Une sauce qui va, premièrement, saler le ramen.
Le taré, c'est un nom japonais ?
Oui, c'est taré. T-A-R-E.
Et qui désigne donc...
Qui est en fait la sauce.
La sauce.
La sauce qu'on va y apporter. Donc la fonction première, c'est de saler le plat. Parce que la soupe en fait, qu'on fait n'est pas assez salée, on n'est pas assez assaisonnée. Et en tout cas, dans les ramen, on fait exprès de ne pas l'assaisonner pour, entre guillemets, laisser de la place aux molécules ou de l'infusion qu'on essaye de transmettre, par exemple, de la viande vers l'eau. Donc on ne va pas l'assaisonner pour que justement laisser... ce bon goût aller dans l'eau.
D'accord.
Et on l'assaisonne après.
Ok.
Et donc premièrement, et puis deuxièmement, ça va aussi être un moyen d'apporter de l'umami, ou de caractériser, pourquoi pas, le ramen avec du miso.
Du shoyu, qui sont tous les deux pleins d'umami.
Exactement. Et c'est souvent là-dedans qu'il y a une part du secret, alors... parfois de polychinelle, mais entre guillemets.
C'est important pour bien apprécier un plat d'avoir un secret de
fabrication.
De cuisinier. Ouais.
Bien sûr. Mais non, mais c'est souvent assez technique.
Okay.
C'est souvent particulièrement. Mais bon, voilà. Et ensuite, on a les toppings. Alors, les toppings, tout à l'heure, je disais que c'était un plat de nouilles. Les toppings, c'est pas comme le steak frites. C'est-à-dire que c'est pas le chashu, la viande, avec des nouilles en dessous. Le chashu, les toppings ne sont là que pour ponctuer l'expérience.
D'accord.
On pourrait très bien avoir juste un petit peu de negi, de cébette ou voilà, quelque chose avec une astringence, seulement si ça se justifie par rapport au reste du bol.
D'accord.
Donc faut pas se dire plus il y a de viande, meilleur sera le ramen, c'est pas le sujet. Donc ça ponctue. Et en fait, vous voyez, c'est une fois qu'on a dit tout ça, ce qui fait un bon ramen, c'est simplement la cohérence et l'équilibre entre ces cinq éléments. Et tout doit être hyper équilibré pour qu'on on puisse profiter de ces nouilles et que tout aille avec.
D'accord.
Et la difficulté d'un ramen, c'est qu'en fait, tout est au même moment. Tout est mélangé dans un seul bol. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir un condiment sur le côté. On ne peut pas... Voilà, tout se mélange. Et surtout, tout est fait à des temps très différents en termes de mise en place.
Ouais.
Voilà.
Ok, eh ben, super intéressant. Et donc, comment se passe l'ouverture de votre tout premier restaurant ?
Alors, l'ouverture du premier restaurant, on n'a aucune expérience. Il y a quelques professionnels, mais peu. Et là, on ouvre en se disant, on va parler à personne de cette ouverture.
D'accord.
On était très bien accueillis par les voisins du quartier, puis ils ont vu pendant le chantier ce qui se passait. Et on s'est dit, on va juste ouvrir la grille, puis on va voir ce qui se passe.
Ok.
Et là, au bout de deux ou trois jours, on a 2 heures de queue.
Et vous attendiez pas
pas
à
du
ça
tout. Pas du tout. Enfin, pas comme ça, c'était impensable.
Et vous étiez en cuisine à ce moment-là ?
Oui.
Ouais.
Et c'était impensable. Donc voilà, en fait, on s'en est pris plein la figure.
Ça a cartonné tout de suite, quoi.
Oui, ça a cartonné tout de suite. Mais en fait... bon, oui, c'était un carton, mais j'ai envie de dire peu importe, parce qu'en fait, c'était le début, je savais où on en était, c'est-à-dire que je savais que je n'étais pas forcément satisfait de là où on en était, en vrai, parce qu'on était débutant, ça ouvrait, donc je m'en suis pas contenté. Je ne me suis pas dit youpi à la queue, je me suis dit, après, une fois qu'on a passé le côté amusant et terrifiant, comme on sait précisément où on en est, c'est pas là où j'ai commencé à prendre du plaisir. J'ai pris du plaisir plusieurs mois après.
Ouais.
Quand j'ai pu vraiment me dire, les nouilles, en fait, c'est vraiment ce que je voulais.
Ouais.
Le bouillon, etc. Et puis, ça a été une lente progression, parce qu'on n'a pas arrêté de faire évoluer les choses. Sachant qu'on n'a pas parlé, mais avant même l'ouverture de Kodawari, c'était important pour moi, mais on a mis en place une semence de blé pour Kodawari. Et j'ai loué, en fait, à un ami agriculteur une parcelle et c'est lui qui exploite, donc qui est propriétaire hein, du champ, donc c'est lui qui l'exploite. Mmh. Et on a mis ensemble en fait en place une semence pour avoir un blé pour faire des ramen, ce qui n'existait pas en Europe. Personne faisait de farine. La seule farine disponible était au Japon.
D'accord.
Et ça n'avait aucun sens à aucun niveau, enfin avant tout économique. Il n'y a pas de sens tout court intellectuel et ni écologique à faire venir de la farine du Japon.
Et comment vous avez trouvé les semences du coup ?
Eh bien, je suis parti d'un cahier des charges en disant bah, voilà le taux de protéines, voilà en fait ce que j'aimerais sur l'amidon. Mais le problème c'est je parle à des gens qui savent pas ce que c'est, parce qu'en fait c'est propre au ramen. Et ici en France on parle que de meunerie boulangère, et donc les gens me regardent en me disant t'es qui, en plus je m'appelle Meunier, donc ils pensaient que je me foutais d'eux. Donc ça a été un peu long. Ça a été un peu long, et du coup on a vraiment anticipé. Et au début effectivement le blé qu'on a la première version, bah c'est bien, c'est pas top. Mais ça va.
Okay.
L'année 2, c'est pas mal. L'année 3, c'est mieux.
Okay.
Et puis, en fait, ce qui était top, c'est qu'on a mis comme ça plusieurs années à valider en fonction du climat de là où se trouve le champ.
Ouais.
Aussi sur la meunerie, beaucoup de travail. Aussi la récolte. Ouais. Enfin, la récolte, la moisson se fait pas exactement au même timing qu'on le ferait pour du blé boulanger.
Faire du pain, ouais.
Et toute cette aventure-là, en fait, se passe aussi en parallèle, en essayant de maîtriser le produit.
Mais comment est-ce que vous avez atteint cette précision ? Comment vous saviez qu'il fallait tant de protéines ?
Eh ben, c'est là où j'ai en fait. Toutes mes recherches, je les faisais pour moi.
Oui.
Je les faisais par passion, ça m'amusait de comprendre. Mmh. C'est les chefs japonais, les écoles japonaises.
Et qui sont dans cette recherche, cette perfection.
Certains, oui. Il y a ceux notamment qui s'appellent Yamato, c'est ceux qui vendent les machines pour faire les nouilles, les laminoirs. Oui. Qui eux sont très pointus. Ils font des choses très poussées dans ce sens-là.
C'est quasiment de la chimie à ce
point-là. Ah, mais c'est clairement de la chimie.
Ouais.
Et ce truc-là, en fait, à partir du moment où... Moi, ça m'amusait vachement de le faire.
Okay.
Donc, j'étais tellement content de me rajouter ce fardeau. parce que je voulais vraiment maîtriser et avoir la texture la bonne texture de nouilles. Et je suis désolé, je suis peut-être un peu long sur les nouilles, parce que c'est quand même un truc important pour moi.
Non, mais oui, mais en même temps, c'est, selon vous, la première... Enfin, le pivot central du ramen, donc je comprends.
Il y a deux choses qui sont passées là assez récemment. Par rapport à ça, et qui sont une forme de victoire, satisfaction. Il y a les gens de Sun Noodle. Sun Noodle, c'est une très grosse usine, c'est la plus grosse usine qui produit des nouilles pour les restaurants de ramen.
D'accord.
Usine certes, mais passionnée surtout, et ce sont des Japonais qui ont commencé à Hawaï, qui ont émigré à Hawaï.
D'accord.
Et qui sont des gens vraiment passionnés, donc qui font les choses bien. Donc le père fondateur, on a dîné ensemble il y a quelques jours, il est venu chez Kodawari hier soir.
Ok.
Fait
pression.
50, bien sûr. Non, il les connaît, hein, il est déjà venu plusieurs fois, mais voilà, j'ai eu un message ce matin me disant que qu'il était vraiment bluffé et que il trouvait ça top. Donc venant de spécialistes, c'est toujours chouette.
Bye.
Et puis on a eu on a eu collectivement chez Kodawari un immense plaisir de participer à une grosse compétition de ramen cette année.
Mais oui, j'ai vu ça, ça faisait partie de ma question suivante, super.
Et cet été, je suis allé présenter en fait mon ramen, enfin celui que je voulais qu'on fasse pour la compétition.
Incroyable, comment est-ce que vous êtes lancé dans une aventure pareille ?
Alors c'est pas moi, c'est j'ai été invité.
Ah mais génial.
J'étais invité et parce que là pour le coup j'ai arrêté de mettre les pieds dans la porte.
Oui.
Donc on a été invité et on a été les premiers étrangers de l'histoire à être invités à cette compétition.
Mais c'est ce que j'avais lu, c'est incroyable.
Qui est la plus grosse compétition au Japon de ramen.
De ramen.
Ouais.
Et qui se passe à Tokyo, qui s'appelle le Tokyo Ramen Festa.
Exactement. Donc on était 28 restaurants.
D'accord.
Que des restaurants connus, donc c'était assez fou de se retrouver là.
C'est clair.
Surtout que je n'aurais pas imaginé un jour en arriver là.
Ah mais c'est clair.
Donc c'était extraordinaire. Et donc on était invité, je vous en parle après, mais juste pour finir, je m'en retrouve cet été en blind test. J'ai rapporté ma farine dans mes bagages et on teste la farine japonaise, la farine de Kodawari faites vraiment en France par nous. Et en blind test, de façon unanime, on dit tous c'est le numéro 3 qui est meilleur. Et on ouvre et on dit c'est la farine française.
Mais non.
Et donc ça, c'est des moments alors de stress avant, parce que j'avais vraiment la pétoche en disant, imaginons que ce soit, même moi je dis que c'est moins bon, etc.
Ouais.
Enfin, bref, pas même si je pouvais tricher, parce que j'arrive à reconnaître ma farine, mes nouilles, enfin surtout les nouilles faites avec notre farine. Mais non, c'est des satisfactions.
Ouais.
Satisfaction, pas en se disant, c'est pas de l'auto-satisfaction, c'est du plaisir de se dire, cette culture des ramen qui m'inspire s'exporte, va ailleurs et vit en dehors du Japon, et elle grandit en dehors du Japon. Mais la satisfaction, elle est là. C'est pas de me dire, youpi, je suis fort. C'est aussi la satisfaction de mes chefs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils m'ont donné leur go plus de 10 ans, 10-15 ans. Mais la satisfaction qu'ils ont, c'est celle d'aujourd'hui, en fait. Et de se dire qu'ils m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, et jusque-là, au dernier concours, au mois de novembre, on a vécu quelque chose d'assez assez magique.
Et donc, parlons de ce concours. Donc, vous êtes invité. Il se déroule en novembre, donc, de chaque année. Et il s'agit d'élire le meilleur ramen. Et la manière dont ça se passe, c'est qu'on élit le restaurant qui a vendu le plus de ramen.
Exactement. Alors, en fait, c'est dans un grand stade. Donc c'est très très grand. Il y a deux fois une semaine, donc il y a 14 restaurants qui ont leur petits restaurants les uns à côté des autres. Et il y a, je crois, 150 000 personnes qui viennent pendant l'événement. Wow. Jusqu'à l'année d'avant, les gens, en fait, prenaient les tickets et votaient, et il y avait un classement très précis. Là, cette année, l'organisateur ne voulait plus faire ça. Alors, je sais pas pourquoi, je lui ai même pas demandé. Je te demande toujours l'histoire du pied dans la porte. Je me tiens mieux maintenant au Japon. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même désigné celui qui avait remporté. Donc c'était nous. Ce qui était génial, c'est que moi, l'expression, l'important, c'est de participer. C'est pas trop mon truc, quoi. Donc si on
ah oui.
Non. L'important, c'est de gagner. Donc,
c'est de gagner, ok.
Donc, on y a été dans cette optique-là.
D'accord.
Donc, on s'est battu, on était vraiment focus guerrier.
Et c'était quoi votre ramen?
Alors, le ramen, c'était un ramen, un tonkotsu, qui est un ramen de porc, très crémeux, mais on l'a fait de façon très, très, donc très allégée, très crémeuse, très blanche, avec du jus de homard.
D'accord.
Donc, mélangé avec du homard, une quenelle de homard. De la salicorne qu'on a fait venir de Bretagne.
Qui avait une French touch assez marquée.
Ouais.
Et dans les costumes aussi, j'ai vu.
Oui. Et du beurre bordier.
Et du beurre bordier.
Et on a fait ça. Et ce qui était alors magique, c'est que c'était une compétition, mais j'étais pour le backup logistique, culturel et etc. En fait, les restaurants Nagi, qui sont un grand groupe au Japon, ultra actifs dans le développement de la culture des ramen, c'est eux qui nous ont accueillis dans leur cuisine centrale.
D'accord.
Donc on s'est retrouvés dans un endroit magique, c'est-à-dire le temple des ramen avec des immenses marmites montées sur vérin, et on s'est retrouvés dans un labo. Donc on travaillait à cheval entre leurs opérations et notre besoin. On a fait, on a préparé pour 7800 ramen.
Wow.
On a fait, je crois qu'il y a eu quasiment 3 tonnes de marchandises pour faire les soupes.
Ça a dû être un casse-tête en tête d'approvisionnement.
Ouais, c'était fou. 750 kilos de tête de homard. C'était magique. Enfin, c'était très très physique, très intense. On bossait 15 heures par jour, on était dans le décalage, enfin, c'était fou. On est parti à 8, de mémoire, 8 de Kodawari en
Et seulement 2 sont revenus.
Non, tout le monde est revenu sans et saufs, mais pas tous en bon état. C'était génial pour ça, parce que vous voyez, tout à l'heure on parlait de stress ou de responsabilité. Bah, moi, ma fierté aujourd'hui, c'est de me dire qu'il y a des gens qu'on a fait venir chez Kodawari. Pas forcément tous passionnés de ramen, mais en tout cas passionnés de cuisine et de gastronomie, qui connaissaient la cuisine française en brigade, etc., se retrouvent au Japon et qu'on vive ça et qu'ils soient aussi passionnés que moi et qu'ils se défoncent au moins autant que moi, si ce n'est plus. Ça, c'est une immense fierté, enfin, qui me marquera pour toute ma vie.
Bah, c'est sûr qu'en termes d'équipe, de team building, on peut pas faire mieux, quoi.
Ouais, c'était pas mal. Mais surtout, non, ce que j'ai trouvé beau, c'est que les gens ont donné plus que ce qu'ils devaient. Et surtout, ils ont donné plus que ce qu'ils pensaient pouvoir donner.
Ah oui.
Et il y a eu un dépassement qui était assez magique. Et on m'a pas posé la question de savoir si ça me manquait de piloter ou l'armée, etc.
Ouais.
Donc non, ça ne me manque pas, parce que je retrouve aujourd'hui en cuisine cet esprit et cette fraternité.
D'accord.
Et donc voilà, ça c'était pour moi un beau succès. Et puis pendant l'événement, le ramen était très bon.
Mmh.
Donc on était tous contents de ça. C'était vraiment chouette. Et puis tous les chefs dont je vous parlais la dernière fois, qui m'ont formé, ils sont tous venus.
Ah oui.
Tous. Et ils faisaient la plonge. C'était je pense à quelqu'un comme Yamaguchi-san qui c'est le ramen Yamaguchi je sais pas si c'est bien de le comparer je veux pas dire de nom, ce serait ridicule, mais disons que c'est comme un des très grands cuisiniers en France.
Mm.
Bah, dans le monde des ramen, ce sont des gens qui sont assez incroyables, et ils sont venus donner un coup de main pendant le service pour faire la plonge, pour remplir les bols pour nous aider, etc. Et c'était hyper touchant, et ils étaient hyper émus, effectivement, de voir ce succès. Et ça aussi, c'était une grande victoire.
Ouais, j'imagine. Et puis, c'est une sacrée réussite, parce que voilà, pour plein de raisons, on pourrait comprendre qu'ils ont envie de garder leur secret de ramen pour eux, et d'être aussi, en plus... accueillant avec vous, enfin c'est admirable de leur part, et ça a dû être merveilleux.
J'ai rarement vu ça dans toute ma vie. Voilà, ouais. Mais encore une fois, ce qui est extraordinaire, c'est la passion. Mm. Les gens, ils sont habités par cette passion pour les ramen. Mm. Voilà, donc c'était fou.
Et du coup, est-ce que ça vous a donné envie d'ouvrir un Kodawari Ramen au Japon?
Alors oui, mais j'avais pas besoin de ça pour.
Vous avez une idée déjà un peu en tête.
Alors, ça fait partie de mes rêves,
ouais.
Mais on va pas le faire maintenant.
Pour avoir des raisons d'aller au Japon très régulièrement.
Ouais, exactement. Non, mais on va pas le faire maintenant parce que là aujourd'hui on est 85.
Ok.
Qu'on va passer.
C'est déjà beaucoup, ouais.
Oui. Qu'on va passer à, on va être pas très loin de 200, sûrement là d'ici la fin de l'année.
Ah oui. Parce que vous avez d'autres ouvertures.
Il y a deux Kodawari qui ouvrent cette année.
Wow.
Et que, entre guillemets, bon père de famille, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, ça veut dire qu'avec un rythme sain et normal, oui. On va ouvrir. Il n'y a pas de raison de se précipiter. Le but, c'est de faire les choses bien, de faire ça sur la durée. On va éviter de faire l'effet... on n'est pas une franchise, quoi. Je ne sais pas comment dire. C'est...
Oui, il faut que ce soit organique dans ces cas-là, quoi. Il voilà. Vous avez des fonds d'investissement ou pas?
Non.
Ils sont derrière. Non, c'est ça. Donc, du coup, il n'y a pas de raison d'aller trop vite.
Non. La seule chose qui nous guide, c'est que les choses soient bien faites.
Ouais.
Et donc, le Japon, même si j'en rêve, ce serait précipiter les choses que d'aller ouvrir un restaurant là-bas.
Okay.
Mon seul vrai rêve au Japon, en fait, ce serait... Il y a un musée du ramen à Tokyo, enfin à côté de Tokyo, et ils invitent régulièrement, en fait, des restaurants. Voilà, ça, pour le coup, je ne me poserai pas de questions. On mettra les moyens qu'il faut pour... technique humain pour y aller si on est invité.
Ok. Et juste par curiosité, les deux nouveaux restaurants, ce seront en région parisienne aussi?
Dans Paris.
Dans Paris.
Oui.
Ok. Très bien. Bon, bah, hâte de voir, d'assister à ces ouvertures. Ultime question entrepreneuriale avant de passer à la suite. Quels sont les 2-3 conseils que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une entreprise de restauration en France? Alors, d'oser, on a eu autour de votre passage en tant que pilote de chasse ce conseil-là, de précieux.
Oui. Première chose, c'est être clair avec soi-même, pourquoi on veut le faire. Quels sont ces... Enfin, il faut être hyper clair avec ses objectifs, son ambition et la raison pour laquelle on veut le faire. Il faut que ce soit limpide. Parce que tout le monde va essayer de... soit de vous démotiver, soit d'amoindrir. Enfin, en fait, il faut, si cet entrepreneur n'est pas clair avec lui-même, il convaincra personne.
Il faut que le projet soit super fort, quoi.
Hyper fort.
Et que la personne soit passionnée, justement.
Oui, parce que clairement, les clients ne viennent pas parce que l'entrepreneur a envie de gagner de l'argent.
Bah oui, oui.
Voilà. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est prêt à donner, offrir, proposer. Après, on peut avoir tort, hein, mais il faut qu'il soit habité en fait par son idée. Premièrement. Deuxièmement, on est enregistré, je vais pas montrer la photo, mais il y avait dans un restaurant dans lequel j'étais au Japon une affiche avec marqué Never, Never, Never Give Up. Et c'était le fondateur qui mettait ça, et tout le monde le voyait, etc. Je trouve que c'est important.
Ouais.
C'est important parce que aujourd'hui, enfin, entrepreneur, c'est coûte que coûte montrer le cap dans la tempête en permanence. C'est pas le but, hein. Mais quand il y a une forme de développement, on est toujours un peu en déséquilibre entre ce qu'il faudrait et là où on en est.
Ouais, ouais.
Donc il faut avoir cette force. Et quand on l'oublie, revenir à le premier conseil, c'est-à-dire pourquoi on est là. Mais en tout cas, ne jamais abandonner, coûte que coûte. Après, ce sera le monde qui vous dira que vous aviez eu tort. Les finances, les clients, la banque, à bien un moment donné, on va vous dire stop, fin de la récré.
Ouais.
Mais jusqu'à ce moment-là, il faut se battre.
Ouais. Oui, et puis, je transvase à ma propre expérience, mais ce que je trouve aussi, c'est que quand on a une idée à la base, évidemment qu'on va se planter plein de fois avant d'arriver à quelque chose de potable et puis ensuite quelque chose de bien. Et c'est hyper important, donc, dans cet esprit de never, never, never give up, d'aller jusqu'au bout des choses, quoi, de ne pas faire les choses à moitié, parce que là, sinon, on se plante à coup sûr. Quoi.
Mais c'est d'autant plus facile de ne pas abandonner quand on sait pourquoi on est là.
Oui, oui. Bon, bah super. Avant de passer au crible de la fin, j'ai juste encore une petite dernière question à vous poser autour des saisons, puisque donc ce podcast, on parle du Japon, mais aussi des saisons, puisque il a été créé lorsque j'ai découvert le Kyurikus, ce fameux calendrier éphémérite qui est un objet magique. En ce moment, nous sommes en mars. que vous évoque ce mois?
Mais c'est la renaissance, le printemps, les cerisiers. Et en fait, une curiosité finalement pour la culture japonaise, parce que ça, je vous dis les choses pas bateau, mais je dis ce que ressentiraient les Japonais. Mais en fait, moi, je suis toujours très curieux de voir cette carte du Japon, où on voit que à quel point c'est important de voir qu'à telle date les cerisiers vont fleurir.
C'est fou, ça. Ouais, moi, je pensais pas que c'était réel avant de le voir de mes propres yeux.
Finalement, le mois de mars, moi, ça m'inspire plus ça.
Ouais.
Parce que, et aussi le fait que, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure pour savoir, parce que on fait un ramen de potimarron, donc j'étais en train de me dire, bon, les potimarrons, ils arrivent sur la fin.
Ouais.
Et donc, c'est le temps de faire un ramen pour le printemps.
Pour le printemps. Qui va être à quoi?
Sûrement curry vert. Mais
curry vert.
Okay. Là, on anticipe pas mal parce que j'en ai pas parlé à grand monde encore. Mais
ok. Oui, oui, oui. Puis c'est en travail, évidemment.
Ouais. Et un tan-tan, pardon, pour un tan-tan-man aussi.
Ok. Et quelles sont les choses que vous aimez faire à cette période de l'année? Personnellement, hein, pas forcément.
Alors, comme j'ai une autre passion qui s'appelle les sports mécaniques.
D'accord.
C'est souvent le début de la saison.
Ok.
Donc, je fais du kart.
Okay.
Et je fais de la compétition, et donc voilà, donc c'est le...
Et c'est le début de cette saison-là.
C'est le début de la saison, ouais.
D'accord.
Donc voilà.
Trop bien.
On fait attention au sport, on fait attention à ce qu'on mange,
et on se...
Ouais.
Parce que le poids
c'est crucial.
Ouais. Bon, et avant de passer à l'entretien de la fin, je relève juste quelque chose dont vous avez parlé un peu plus haut, et je me disais que... Ce serait bien intéressant juste que vous nous donniez 2-3 conseils. Vous avez parlé de livres, que vous avez dévoré des livres de cuisine. Est-ce que vous en auriez 2-3 à nous conseiller de livres incontournables sur la cuisine japonaise? Ou le ramen si...
Oui, il y en a, je pense qu'il y en a un qui, que j'adore pour son équilibre entre... C'est Ivan Ramen, qui est Ivan Orkin, qui est un chef américain qui a cartonné au Japon, qui maintenant a des restaurants à New York. Et je trouve ça génial parce que c'est un livre où il y a des recettes effectivement de cuisine japonaise, des recettes de ramen, mais surtout c'est une ouverture sur ce qu'est la culture des ramen. Donc je pense que c'est peut-être le seul livre qui décrive le plus finement, le plus correctement, en tout cas en anglais, ce qu'est cette magie et cet enthousiasme autour des ramen.
Donc, ah bah, super.
Ouais.
Eh ben, je le note. Je vous demanderai l'orthographe exacte, mais c'est par mail que je ferai ça. Et comme ça, je le donnerai. Je le mettrai dans l'article dédié à l'épisode pour que tout le monde puisse le consulter. Mais donc, passons à notre questionnaire de la fin. Quel est votre plat japonais salé préféré? Hein, on va marquer ramen.
un ramen qui va aller très loin sur la compréhension du dashi et où le dashi est vraiment structurant pour lui.
Donc là, vous pensez pas à un ramen en particulier, mais plus à un ramen très bien construit.
Comme oui, très bien construit, mais quand même, on va sentir cette force du dashi,
du dashi
plus qu'autre chose.
Ok, très bien. Et quelle est la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout?
Non, je rigolais pas par rapport à forcément par rapport à vous.
Oui, non, vous n'êtes pas obligé de dire.
Non, j'adore les taiyaki.
Les taiyaki. Donc ces petites coffres en forme de poisson, de carpe. Qui sont très mignonnes. Et donc, celle que vous aimez, c'est à l'anko?
Non, j'aime bien, en fait, j'aime bien fourrer à la ganache. On faisait ça en collaboration avec Tomo.
Avec Tomo,
et il avait une ganache au
chocolat blanc.
Chocolat blanc, matcha. Et l'ensemble était bien.
Je n'en doute pas. Quel est votre goût ou parfum préféré japonais?
Bah, je veux pas dire le dashi parce que c'est vrai, j'arrête pas d'en parler, mais
bah,
non,
si
c'est clairement le dashi.
C'est le dashi.
Dashi, mirin, shoyu, le mélange des trois, c'est assez fou.
Et un dashi, donc je regardais la définition du dashi.
Oui.
La forme la plus minimaliste, c'est juste une infusion de kombu. Vous, votre dashi, c'est les trois, ce que vous citiez, katsuobushi, kombu et shiitake.
Très simple. En fait, ils ont le shiitake a un type d'umami, l'acide guanylique, le kombu et le poisson, par exemple, ont des acides aminés qui sont différents. Et c'est la combinaison, en fait, ces trois acides aminés qui multiplie de nombreuses fois, en fait, la force de l'umami.
D'accord.
Donc, mettre que du kombu, c'est bien, on peut avoir le goût du kombu, mais si on ne met pas autre chose, l'umami, purement l'umami, aura moins d'impact.
Ok.
Donc c'est moi en cuisine japonaise traditionnelle, on peut faire des choses plus avec un seul ingrédient parce qu'on veut pas masquer le goût, on veut pas avoir un truc trop complexe, on veut quelque chose de simple. Mais un dashi qui a de l'impact, forcément il y a au moins les trois types d'acides aminés.
Les trois types. Ok. Si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il?
Le miso.
Le miso. Parce que. Il a du tempérament, il est généreux.
C'est ridicule.
Il est audacieux.
Non, mais parce qu'il...
Non, mais la question en elle-même est un peu...
Non, mais voilà, je sais pas. Non, ce qui m'a inspiré, c'est qu'il y a un côté, terre, il y a un côté maturation lente, le temps, le truc, la force. J'en sais rien. Je vais me noyer à mystifier.
Non, mais c'est ma question aussi. Hein, mais je la pose à chaque fois. J'aime bien voir les intervenants qui s'enterrent dans la réponse, ce qui n'est pas facile. Quelle est votre saison préférée?
L'hiver.
L'hiver? Ah, super. J'aime bien quand on répond l'hiver parce que c'est pas forcément la préférée. Mais donc pourquoi?
Bon, l'été, il fait trop chaud.
Ouais, on est d'accord.
J'adore l'automne, mais il y a un côté triste, mais même s'il y a les vendanges et qu'il y a les feuilles, c'est joli. Le printemps, je trouve que c'est mignon, mais il pleut tout le temps. J'aime bien l'hiver parce que l'hiver, c'est on peut pas tomber plus bas.
On ne peut pas faire pire.
Et donc, il n'y a que des choses positives qui vont venir derrière. j'aime beaucoup cette période de Noël.
Okay.
Ça m'amuse. Et puis, je vais souvent au Japon en hiver.
D'accord. Mais c'est une super saison pour y aller parce que l'hiver est sec. Enfin bon, la péninsule est immense. Donc,
non, mais c'est vrai que c'est sec. Non, mais c'est ça, c'est sec. Enfin, pour plein de raisons, j'aime beaucoup l'hiver.
Auriez-vous une bonne adresse autour du Japon en France?
Kyoko.
Donc qui est la fameuse épicerie.
Ouais.
Et quelle est votre et auriez-vous une bonne adresse au Japon, pardon?
En tout court?
Une bonne adresse, oui, tout court, un endroit que vous aimez faire découvrir, que vous adorez en cuisine, mais...
Alors, un lieu que j'adore, c'est le plateau de... Enfin, Koyasan. qui est un temple, une multitude de temples, mais
dans le Kansai.
Ouais, avec comment dire, un grand, un immense cimetière en pleine forêt qui est assez beau, troublant, mystérieux. Et c'est mystérieux. Donc c'est voilà, c'est un endroit qui est un peu loin de tout. Donc j'aurais pu vous dire Nara parce que ça fait toujours plaisir d'aller à Nara, bien sûr, mais c'est un peu moins, c'est un peu plus touristique. Je trouve que Koh Yasan, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas. Et puis en adresse de ramen.
Oui, j'avais noté du coup.
Ouais, il y a
Shima.
Il y a Shima ramen à Shinjuku. Il faut impérativement y aller. C'est un enfer pour y accéder parce qu'il y a un système de réservation compliqué. Enfin, c'est l'enfer.
Mais donc il faut réserver.
Ouais, il faut réserver. Il faut y aller le matin avant 9h30, je crois, pour D'accord. s'inscrire sur la feuille qui est devant.
Okay.
On prend un créneau. Donc il y a déjà la queue pour mettre son nom sur le créneau. Il faut revenir au créneau, mais il y a souvent la queue parce qu'il y a du retard. Mais à la fin, c'est juste l'endroit le plus précieux de la Terre pour manger, je pense, le meilleur ramen du monde.
De tous les temps, ok.
J'adore Kikambo, qui est un ramen hyper, hyper épicé.
Ok.
Incroyable.
À Tokyo aussi ?
À Tokyo, oui.
Ok, ouais. Ah, super. Merci beaucoup pour ces conseils. Et quel est votre mot japonais préféré ?
Kodawari.
Kodawari, qui signifie ?
Qui veut dire têtu, casse-couille, pointilleux, l'attention du détail, ta particularité.
D'accord, excellent.
Voilà. Donc il est indéfinissable et donc il est amusant parce que en tout cas, ça peut être une vision. J'ai choisi ça parce que je voulais montrer qu'on allait essayer de faire les choses. D'une façon un peu différente.
Perfectionniste aussi. Ok. Et enfin, quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast ?
En France ?
Oui, c'est vraiment c'est la personnalité à laquelle vous pensez. Je veux dire, même si c'est pas réalisable.
En fait, il y a. Alors, je pense à deux personnes. Il y en a un qui n'a pas un lien forcément ultra quotidien avec le Japon, qui s'appelle Stéphane Jégo, qui est le chef du restaurant La Mijan, qui est un ami, qui est passionnant, mais qui fait partie de ces êtres où quand on les rencontre, on comprend pourquoi il y a des passionnés de gastronomie, parce que il vit ça, physiquement, en cuisine, les gens qui l'entourent en fait ont envie de le suivre. C'est une personne vraiment passionnante, attachante, pleine de valeurs et qu'on a envie de suivre. Et encore là, pour dire le lien avec le Japon, j'étais chez lui il y a 2 jours et il nous a préparé du maquereau grillé et mariné de façon japonaise.
Okay.
Donc très inspiré quand même par tout ça et les amis japonais avec qui j'étais étaient bluffés en me disant mais c'est incroyable, c'est le goût
c'est vrai,
ouais.
Excellent.
Et donc voilà, c'est quelqu'un que je trouve super. Après en France une autre personne que j'aime beaucoup parce qu'on a des points communs, c'est Romain.
Oui, de chez Tomo.
Parce que
Romain Gaillard.
Ouais. On est des petits Français passionnés, sûrement. Enfin, je pense qu'on n'a pas assez parlé de, pas du tout parlé de vous, d'ailleurs, Mathilde. Je sais, mais je pense qu'on est en train d'essayer de définir ou de traduire et transmettre ce qui nous a plu intimement. Parce que je sais que c'est pareil, c'est votre cas. Je sais que c'est son cas. Je sais que c'est le mien. Et on essaie de partager ça et peut-être que ambassadeur c'est pompeux, mais en tout cas on a une mission d'essayer de partager ce qu'on aime en France du Japon. Donc je pense que Romain
super conseil.
Ouais.
Notre entretien touche à sa fin. Un grand merci Jean-Baptiste Meunier d'avoir répondu à toutes mes questions et plus encore.
Merci beaucoup.
Et un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour les épisodes d'avril. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.